So we start with the paper of Nicolas Fortané about bacteria and antimicrobial resistance and the place and the role of ignorance and uncertainties in the production of knowledge.
Alors, je vous remercie tout d'abord les organisateurs de m'avoir convié à présenter mon travail. Je vais aujourd'hui vous parler d'un... La question de l'antibiorésistance en médecine vétérinaire, alors pour le dire en deux mots, l'antibiorésistance, c'est le problème qui vient du fait qu'on donne des antibiotiques aux animaux, qui entraîne une sélection des bactéries résistantes, et ces bactéries, évidemment, peuvent être transmises par diverses voies, notamment la voie alimentaire, aux humains, et effectivement, la question de l'antibiorésistance en médecine vétérinaire est aussi, non seulement un problème de santé animale, mais aussi un enjeu de santé publique. Alors... Je voudrais introduire mon propos, vous allez comprendre pourquoi, en montrant que néanmoins il y a une incertitude extrêmement importante qui préside à la définition même du problème de l'antibiorésistance, et ce depuis les années 70, où en fait, même si je ne vais pas parler aujourd'hui des questions de mise à l'agenda politique et de construction du problème public de l'antibiorésistance, en fait, tous ces processus sont toujours reposés sur cette incertitude absolument centrale, c'est-à-dire l'impossibilité d'établir un lien formel, scientifiquement prouvé, entre la prévalence des bactéries résistantes d'un côté et l'utilisation des antibiotiques de l'autre. Alors évidemment, c'est pas cette incertitude en elle-même qui empêche la mise à l'agenda politique, ce sont plutôt évidemment les usages politiques de cette incertitude et toute la conflictualité qui en résulte, notamment évidemment autour de la question de la répartition de la propriété, de la responsabilité du problème de l'antibiorésistance, entre eux, en particulier le monde de la santé humaine et de la santé animale. Oui. Encore une fois, ce n'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui, mais surtout, je voudrais essayer de comprendre, de proposer à la discussion certains éléments pour comprendre d'où vient cette incertitude absolument apparemment insoluble et dans quelle mesure elle a conféré au savoir biotechnique une dimension centrale dans la production des connaissances sur l'antibiorésistance et ce qui va contribuer paradoxalement en fait, au maintien de cette incertitude. Alors ces disciplines biotechniques ou biomédicales, elles sont au nombre de trois principalement, la microbiologie, l'épidémiologie et la pharmacologie, et qui ont la particularité de ne pas toutes définir et mesurer l'antibiorésistance de la même manière. Les deux premières l'appréhendent principalement à partir des bactéries, tandis que la dernière, la pharmacologie, à partir des antibiotiques. Et évidemment, chacune de ces disciplines, enfin en tout cas les deux premières et la dernière, reposent en fait sur des dispositifs de production des connaissances qui vont leur permettre évidemment de produire des données pour expertiser le problème de l'antibiorésistance. Et d'un côté, on a des types de dispositifs qui sont des dispositifs de surveillance épidémiologique, on va voir si c'est vraiment le cas, mais en tout cas qui se présentent comme tels, des bactéries résistantes. Et de l'autre côté, des dispositifs de suivi des ventes de médicaments. Alors c'est un peu plus subtil que de seulement suivre les ventes, mais les pharmacologues essayent de modéliser l'exposition du cheptel national à l'ensemble des antibiotiques utilisés sur le territoire. Alors évidemment, souvent les acteurs estiment que s'il y a une incertitude très forte, celle dont je parlais tout à l'heure, c'est parce que ces deux types de dispositifs et ces deux types de savoirs discutent très peu et articulent pas en fait leurs connaissances. Alors évidemment, c'est en partie vrai, mais ce que je voudrais essayer de montrer ici, c'est que en fait les incertitudes et cette impossibilité de prouver le lien de causalité dont je parlais tout à l'heure résultent plutôt ou aussi d'incertitudes qui sont inhérentes en fait à chaque modalité de production des connaissances. Et pour illustrer ça, je vais m'intéresser aujourd'hui à l'un de ces dispositifs qui est en fait le dispositif principal, même si on a deux autres en matière de surveillance épidémiologique des bactéries résistantes qui s'appelle le RESAPAT pour réseau de surveillance des bactéries résistantes pathogènes d'origine animale. On parlera de RESAPAT, ce sera bien plus simple. Alors, ce que je vais essayer de me livrer donc ici à une jeunesse croisée des savoirs, la microbiologie et l'épidémiologie, et de ce dispositif de production des connaissances sur lesquelles ces savoirs se fondent, donc le fameux RESAPAT. Ce RESAPAT, je vais l'appréhender comme ce que j'ai appelé un dispositif frontière. Alors, c'est rien de forcément novateur là-dedans, mais c'est simplement un mot-clé, un concept qui me permet d'articuler les notions que vous connaissez bien d'un côté d'objet frontière et de l'autre de dispositif socio-technique. On verra pourquoi. Mais la principale caractéristique, et c'est pour ça que je parle d'un dispositif frontière, c'est que le RESAPAT, en fait, articule plusieurs types d'investissements qui coexistent, en fait, à l'intérieur même de son fonctionnement. Quand je parle de type d'investissement, c'est en fait de forme de relation entre acteurs humains et non humains, donc entre des individus, des bactéries, des animaux et même des molécules antibiotiques. Alors on va voir qu'il y a trois formes d'investissement. L'investissement plutôt académique, l'activité académique des microbiologistes, c'est celui qui est d'ailleurs dominant, on verra dans quelle mesure. L'activité ensuite de surveillance des épidémiologistes et enfin l'activité ou l'investissement clinique des vétérinaires praticiens. Et ce que je voudrais essayer de montrer rapidement ensuite, à la fin, en conclusion, une fois que j'aurai un petit peu décrypté ces trois formes d'investissement, c'est dans quelle mesure l'incertitude dont je parlais tout à l'heure, on peut en fait plutôt être appréhendé comme une forme d'ignorance produite directement par ce dispositif de production des connaissances, donc en l'occurrence plutôt de production d'ignorance, à cause de cette difficulté, voire impossibilité à articuler proprement ces différentes formes d'investissement qui président à la structure du dispositif. Alors rapidement, le plan de mon intervention, j'articule plutôt approche historique et sociologique, donc je vais montrer un petit peu comment le dispositif s'est construit, comment les savoirs et les acteurs se sont investis dedans, donc en deux temps, les années 70 et 80 et les années 90 et 2000, et dans un dernier temps, je m'étendrai un peu plus longuement sur le rôle, d'une certaine façon invisible mais néanmoins central, des vétérinaires praticiens. Sur un plan méthodologique, j'utilise évidemment des outils assez classiques des sciences sociales, les entretiens semi-directifs, un certain nombre de sources documentaires. L'ethnographie est à venir, mais c'est dans la suite de mon travail que je dois faire dans les mois qui viennent, justement, pour essayer d'aller observer le rôle des vétérinaires praticiens qui travaillent dans le cadre de ce dispositif. Alors, dans un premier temps, l'émergence du problème de l'antibiorésistance, et dans quelle mesure c'est une question, une affaire avant tout de microbiologistes. Alors, au début des années 70, la problématique de l'antibiorésistance n'est pas encore vraiment une question centrale dans l'ensemble des thématiques qui structurent la recherche sur les antibiotiques, en médecine vétérinaire en l'occurrence, mais on pourrait dire la même chose de la médecine humaine. La question des bactéries résistantes est éclatée entre des problématiques relatives à la pathologie animale, aux additifs alimentaires ou encore aux limites maximales de résidus. Et en fait, alors oui, pour la précision, vous l'aurez compris, dans la partie jaune, c'est des extraits d'entretien que j'ai réalisés avec les acteurs, hein, et comme c'est assez chargé, j'ai mis en gras certains passages pour vous éviter d'avoir tout à lire. Mais un certain nombre de chercheurs vétérinaires, des microbiologistes vétérinaires vont porter cette thématique. Et ces microbiologistes qui vont commencer à s'investir sur ce sujet ont la particularité d'avoir été formés à la microbiologie dans les espaces centraux de la microbiologie française de l'époque, à savoir l'Institut Pasteur et l'équipe du professeur Chabert, et le Centre INRA de Jouy-en-Josas chez les professeurs Rebaud et Ducluseau. Néanmoins, ces chercheurs, ils sont au nombre de trois, ils vont s'installer dans une autre station de l'INRA, c'est la station expérimentale de Nouzilly qui est près de Tours et qui va devenir donc le pôle principal de la recherche sur l'antibiorésistance en médecine vétérinaire. Et pourquoi ils s'installent là-bas? Parce qu'il y a une particularité de cette station de Nouzilly, c'est qu'elle leur permet de travailler sur des modèles animaux qui ne sont pas des modèles souris et rats comme on fait classiquement, en particulier pour la médecine humaine, mais des modèles poulets qui présentent la particularité d'être à la fois un animal expérimental et un animal d'élevage. Et on va voir comment, dans quelle mesure en fait ça leur permet d'assurer une forme de filiation technique et académique avec ce qu'ils ont appris à Pasteur et à Jouy. Alors je ne rentre pas énormément dans les précisions, mais effectivement ces chercheurs vont apporter notamment toute la problématique du transfert plasmidique, c'est-à-dire des gènes de résistance qu'ils ont appris chez le professeur Chabert à Pasteur, et ils importent aussi de Jouy-en-Josas un certain nombre de techniques microbiologiques qu'on appelle des modèles axéniques et gnotoxéniques. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais ça consiste, et un petit peu expliqué d'ailleurs dans l'extrait d'entretien, ça consiste en fait à être capable de produire des animaux d'expérience germ-free, comme ils disent, c'est-à-dire totalement dénués de germes, de bactéries, auxquelles on va pouvoir inoculer des bactéries de notre choix pour essayer d'observer un petit peu la manière dont elles se comportent dans un intestin, en l'occurrence, ou dans d'autres organes. C'est la technique de l'écologie microbienne des professeurs Rebaud et Ducluseau. Et ces trois chercheurs, donc, qui sont au Centre INRA de Nouzilly, vont articuler ces techniques avec les centres d'intérêt hautement légitimes d'un point de vue académique, hérités de leur passage à Pasteur. Mais évidemment, pour que ça fonctionne, pour qu'ils puissent produire d'une certaine façon des données, de la science, il va falloir que se mette en place un dispositif qui va permettre d'alimenter la paillasse, d'une certaine manière, de ces chercheurs. Évidemment, ces microbiologistes ont besoin de souches bactériennes pour travailler, et ça, ils vont l'obtenir au début des années 80 par l'intermédiaire d'un de leurs collègues, aussi microbiologiste vétérinaire, qui travaille au Laboratoire National de Lyon, pas très loin d'ici d'ailleurs, et qui met en place ce qu'ils pensent au départ comme un dispositif de surveillance des bactéries résistantes, qui s'appelle, bon, ça s'appelle pas encore le Resapat, mais nommons-le comme tel, et qui en fait fédère une dizaine de laboratoires départementaux d'analyse répartis de manière très inégale sur le territoire géographique, et qui font parvenir à Lyon un certain nombre de résultats d'antibiogrammes. J'expliquerai un peu plus loin ce que sont les antibiogrammes, et disons qui font parvenir des souches à Lyon qui présentent un intérêt académique pour des microbiologistes, c'est-à-dire des souches bactériennes qui ont un profil de résistance atypique et que les microbiologistes pensent pouvoir en tirer quelque chose sur, en matière de recherche microbiologique. Donc, dans un premier temps, et c'est-à-dire pendant très longtemps, le dispositif, le RESAPAT, on va voir que c'est avant tout un dispositif de recherche, de circulation des souches bactériennes, bien plus, en fait, qu'un pseudo-dispositif de surveillance des bactéries résistantes. Alors, néanmoins, tout ça va se transformer dans les années 90 et 2000. On assiste à des processus que j'ai appelés d'académisation des savoirs et d'expertisation du dispositif. Alors, académisation des savoirs, tout d'abord, bon, ça s'objective très bien avec l'évolution des publications hein, sur le Web of Science de ces chercheurs, donc spécialistes de l'antibiorésistance en médecine vétérinaire. Hein, vous voyez un petit peu la croissance comme ça du rythme et de la quantité même, je puis dire, des publications. Néanmoins, des éléments qui expliquent un petit peu cette académisation d'abord de la microbiologie à l'INRA, c'est essentiellement, ça se matérialise par l'arrivée d'un nouveau chercheur, un microbiologiste qui, cette fois-lui, n'est pas vétérinaire, qui va rejoindre l'équipe au début des années 90 et qui va contribuer à profondément restructurer l'organisation scientifique de cette équipe en permettant, en orientant donc les travaux de manière beaucoup plus ciblée, qui va les orienter vers des publications de plus haut niveau. Ce chercheur, de par sa trajectoire, je ne développe pas nécessairement ici, mais va leur permettre de renouer les liens originels avec Pasteur et aussi surtout avec des équipes internationales, canadiennes notamment. Et donc effectivement tout ça dessine des nouveaux circuits de circulation des souches bactériennes qui va permettre à ces chercheurs d'obtenir des souches du monde entier et d'une certaine façon leur permettre de travailler différemment et de réussir à publier, d'avoir un certain nombre de découvertes scientifiques, si j'ose dire, plus soutenues. Notamment, un élément extrêmement important qui va un petit peu consacrer cette réorganisation du travail scientifique au sein de l'équipe de Nouzilly, c'est ce que j'ai appelé le buzz SGI1 pour Salmonella Genomic Island 1, qui est en fait donc un isolat génomique, un îlot génomique qui va être découvert au début des années 2000 et qui va connaître un énorme succès scientifique dans le monde de la microbiologie ou même de la bactériologie vétérinaire d'une manière générale. Et effectivement, on va voir que sur cette base-là, les travaux vont être démultipliés, les connexions internationales, les réseaux à la fois de collaboration scientifique, mais aussi de circulation des souches. Et là, effectivement, l'un des chercheurs me raconte comment la découverte de cet îlot génomique de SGI1 a profondément modifié la place de l'équipe, on va dire, dans l'espace de la recherche microbiologique vétérinaire sur la question de l'antibiorésistante, et les a élevés évidemment à un rang académique beaucoup plus haut. Alors, il va se passer des choses un petit peu similaires à Lyon, un petit peu après. C'est-à-dire que, à l'époque, l'équipe, enfin, au début, dans les années 80, cette équipe de bactériologie lyonnaise qui servait surtout en fait de relais pour envoyer les souches vers l'équipe de l'INRA, va elle aussi accueillir un nouveau chercheur en son sein, un microbiologiste qui lui est aussi vétérinaire, mais qui présente des caractéristiques académiques beaucoup plus développées que les chercheurs qui étaient là. D'ailleurs, le fondateur historique du RESAPAT va partir à la retraite au début des années 2000, et ce chercheur qui prend la tête de l'équipe de bactériologie ici va lui aussi développer, enfin réorganiser le travail scientifique avec en apportant des savoirs et des techniques de la biologie moléculaire, acquisition d'un nouveau matériel de recherche, recrutement ciblé, de telle sorte que l'équipe va cesser d'être un simple relais ou courroie de transmission des souches bactériennes vers les équipes de l'INRA, mais aussi s'imposer comme un acteur collectif important dans la production scientifique en matière d'antibiorésistance. Le chercheur interviewé m'explique bien à la fin qu'il n'avait absolument pas envie de continuer à faire le postier pour l'INRA, c'est-à-dire simplement envoyer des souches. Autre élément relativement important, toujours au Laboratoire national de Lyon, c'est l'arrivée cette fois d'une équipe d'épidémiologistes. Alors effectivement, là, le RESAPAT va pouvoir développer ses propriétés de dispositif frontière, puisque une autre discipline, d'autres individus vont s'investir dans ce dispositif, essayer d'enrôler différemment les bactéries, les animaux, les antibiotiques. Et ça se passe évidemment, il y a tout un contexte sur lequel je dirai deux, trois mots ensuite, mais qui suite à la crise notamment de l'ESB, donc de l'encéphalite spongiforme bovine, que cette unité d'épidémiologie va être créée. Et ensuite, au milieu des années 2000, ou voire dans la première moitié des années 2000, à un moment où la thématique de l'ESB commence à baisser un petit peu, ils vont faire une reconversion thématique sur la question de l'antibiorésistance et s'impliquer directement dans le RESAPAT, en apportant évidemment leur savoir, leur technique, leur forme de leur modélisation, même d'une certaine manière, du problème, et permettre que se développe parallèlement une nouvelle fonction, c'est-à-dire cette fois il y a une activité proprement de surveillance qui était l'activité originellement dévouée à ce dispositif, mais qui va pouvoir se développer en parallèle évidemment de l'activité académique des microbiologistes. Alors, je disais qu'il y avait évidemment, je ne développe pas ici, mais il faut quand même restituer ça dans une histoire plus large, plus globale, évidemment. Toutes ces transformations, elles ont lieu à la fin des années 90, au début des années 2000. Vous savez bien que c'est un contexte extrêmement, de transformation institutionnelle profonde en matière de politique de gestion des risques, avec la création des agences sanitaires, notamment, donc en France, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, de laquelle dépendent justement les laboratoires vétérinaires, ou en tout cas vont être rattachés les laboratoires vétérinaires. Et en plus, l'antibiorésistance, évidemment, ne constitue pas une crise ou un problème public aussi important que l'ESB, mais néanmoins, au niveau européen, dans les années 90, on assiste à la crise de la voparcine, qui est un antibiotique qui va conduire progressivement à l'interdiction de l'antibiosupplémentation, c'est-à-dire de l'utilisation des antibiotiques à dose infrathérapeutique dans l'alimentation animale. Et tout ça, ça a des effets politiques et institutionnels importants qui vont contribuer, évidemment, à restructurer aussi par le haut, et pas seulement par l'investissement de ces nouveaux chercheurs, le fameux RESAPAT qui s'agrandit, qui récupère un nombre de laboratoires départementaux beaucoup plus grand et qui va permettre, je le disais, au dispositif de devenir ce fameux dispositif frontière. Bon, il faut que j'accélère un petit peu, mais très rapidement. Ici, je m'étais demandé en fait si ce que j'avais essayé de reconstruire comme ça de manière un peu qualitative sur la base des entretiens et des archives, des sources documentaires que j'avais consultées, si ça pouvait s'objectiver par notamment le réseau de co-citation et de co-authorship qu'on pouvait objectiver avec des logiciels comme ça d'analyse de réseau. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche évidemment très bien. Alors le corpus ici, c'est à peu près toutes les publications des années 70 aux années 2000 de ces équipes française que j'ai mentionné sur l'antibiorésistance. Et ce qu'on voit tout de suite, évidemment, c'est cette fameuse rupture, puisque la partie en haut à droite, c'est... je ne sais pas si pour vous c'est à droite, mais en plus on voit les couleurs apparaissent très mal à l'écran, mais c'est évidemment les productions scientifiques les plus anciennes, alors qu'en dessous c'est les plus récentes. On voit très bien la césure et on voit la bascule, notamment grâce à ce fameux chercheur qui arrive à Nouzilly. On voit bien le rôle central des chercheurs de l'INRA, des microbiologistes de Nouzilly. On voit aussi le déplacement des chercheurs de Lyon, c'est-à-dire dans la période la plus ancienne, ils sont plutôt en marge des productions, alors que il y a un vrai changement dans la période plus contemporaine. Et donc on voit bien que tous ces chercheurs, là j'ai mis en vert, ils sont au cœur de la production scientifique en matière d'antibiorésistance en médecine vétérinaire. Et simplement pour les autres espaces qu'on voit apparaître ici, ce sont des chercheurs dont je ne parle pas ici, mais qui utilisent d'autres dispositifs de production des connaissances, d'autres systèmes de surveillance qui sont un petit peu en marge, mais qu'on voit apparaître progressivement. Donc en tout cas, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir que cette objectivation-là marchait assez bien et restituait assez bien cette histoire. J'en viens rapidement à cette dernière partie qui consiste à essayer de comprendre le troisième type d'investissement en fait qui existe au sein du dispositif, celui des vétérinaires praticiens, qui est en fait d'une certaine manière invisible mais central dans la production des données qui vont alimenter le RESAPAT. Alors, comment le RESAPAT fonctionne? En fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que tout part de l'activité clinicienne professionnelle des vétérinaires praticiens, des vétérinaires ruraux, et c'est eux qui vont sélectionner les bactéries que le dispositif parvient à enrôler. Dans un premier temps, dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire réalise un prélèvement sur un animal malade pour connaître la nature de son infection. Il envoie ce prélèvement à un laboratoire d'analyse qui va réaliser un antibiogramme et lui renvoyer les résultats, à partir desquels, évidemment, le vétérinaire va pouvoir choisir le traitement antibiotique adapté à la maladie de l'animal. Mais c'est là qu'une copie de ces résultats est envoyée au Laboratoire national de Lyon, et à partir de ces résultats, les épidémiologistes agrègent toutes les données sur une période longue pour utiliser leur modèle épidémiologique et calculer la prévalence des bactéries résistantes, tandis que les microbiologistes, eux, s'ils repèrent comme ça au sein des milliers d'antibiogrammes qui parviennent une bactérie qui présente un profil de résistance atypique, intéressant de leur point de vue, ils récupèrent la souche pour pouvoir faire des analyses de biologie moléculaire, etc., pour essayer d'en faire une publication, pour le dire vraiment très rapidement. Un antibiogramme, je passe très vite, mais ça fait plusieurs. J'évoque ce terme depuis un moment, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand on fait un prélèvement bactérien, on met la bactérie au sein d'une boîte de pétri, la bactérie colonise la boîte, et puis on applique des petits disques d'antibiotiques au sein de cette boîte de pétri, et on mesure en fait, à partir de ce qu'on appelle le diamètre d'inhibition, à quel point la bactérie est résistante à tel antibiotique. Donc on voit bien en fonction de la taille des diamètres, évidemment. Si le diamètre est très large, ça veut dire que la bactérie est sensible puisque l'antibiotique la tue, et dans certains cas où il n'y a pas du tout de diamètre, ça veut dire que la bactérie est totalement résistante à l'antibiotique puisque il n'y a aucun effet de la présence d'antibiotiques dans son environnement. Alors, à partir de c'est ça qui est intéressant ici, c'est de montrer que comment un certain nombre de biais sont produits par l'investissement clinique des vétérinaires praticiens. Alors, ils sont de plusieurs natures, hein. Évidemment, c'est lié à l'activité professionnelle, donc les vétérinaires rencontrent finalement des infections relativement courantes, donc c'est des bactéries assez classiques qui sont dans un premier temps rencontrées. Ensuite, c'est seulement des bactéries pathogènes, alors je ne développe pas ici, mais ça peut représenter un problème parce que les bactéries non pathogènes peuvent aussi être résistantes et transférer leurs gènes, donc ça c'est un problème aussi. Et puis, dans certains cas, les antibiogrammes ne sont pas réalisés, ce qui fait que le dispositif en fait n'enrôle absolument pas la bactérie dans ce cas particulier. Mais le biais le plus important, et c'est vraiment sur celui-ci que je veux insister ici, et j'arrive progressivement à la fin de mon intervention, c'est que, en fait, les bactéries qui sont prélevées, elles sont généralement prélevées, évidemment, après un échec thérapeutique, c'est-à-dire qu'un vétérinaire praticien, il ne va pas chercher à faire un prélèvement pour savoir quelle est la bactérie qui cause l'infection s'il arrive à guérir l'animal en première instance, en premier recours. Donc ça, c'est extrêmement important, ça veut dire que les bactéries qui sont enrôlées, captées par le dispositif, sont celles qui ont déjà été exposées à un traitement antibiotique, qui en l'occurrence a échoué. Et évidemment, cette exposition entraîne ce qu'on appelle une pression de sélection, ça veut dire que les bactéries sensibles vont avoir été tuées par l'antibiotique et ne va résister que, en l'occurrence, pardonnez-moi pour la répétition, mais que la bactérie résistante, qui évidemment va être surreprésentée d'un point de vue en matière de surveillance épidémiologique, c'est évidemment un biais absolument énorme. J'en viens à ma conclusion, que je vais là aussi essayer de faire rapidement, mais la conclusion essaie donc de montrer dans quelle mesure ce dispositif se résout pas de produit des ignorances, et notamment par le fait que les trois formes d'investissement que j'ai décrites s'articulent difficilement, pour ne pas dire qu'elles ne parviennent pas à s'articuler. Et ça vient du fait qu'en fait coexiste une deuxième définition de l'antibiorésistance, celle des épidémiologistes, pardonnez-moi. Les microbiologistes, j'en ai parlé, ils travaillent à partir des antibiogrammes et leur définition est en parfaite affinité avec celle des praticiens. Mais les épidémiologistes qui agrègent des données sur le temps long, eux, calculent en fait de manière très différente. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais effectivement, ils font une courbe de Gauss comme ça qui permet de séparer des populations qu'ils appellent d'ailleurs sauvages et non sauvages, mais ça veut dire sensibles et résistants d'une certaine manière. Mais ce qui est important ici, et bon, peut-être que je pourrais expliquer ensuite, c'est en tout cas leur définition ne permet absolument pas de prédire l'efficacité thérapeutique d'un traitement. Or, c'est quand même la raison pour laquelle les vétérinaires praticiens envoient des bactéries au sein du dispositif. Alors, je ne rentre pas ici, mais là, en détail, mais on voit bien effectivement la différence de définition entre la définition microbiologique et épidémiologique. Bon, je passe là-dessus. Et tout ça pour dire qu'au final, toute l'ignorance qui est produite par le dispositif, elle vient de cette mesure hybride qui articule définition microbiologique et définition épidémiologique, qui articule trois formes de finalité que j'ai décrite et qui fait qu'au final vont être utilisées des définitions épidémiologiques pour ce qu'elles ne sont pas censées faire, c'est-à-dire définir des seuils cliniques de résistance et inversement. Et donc ça, c'est parfaitement décrit par les chercheurs que j'ai pu interviewer, consulter. Et au final, et j'en viens, c'est ma dernière diapositive, c'est pour ça que, selon moi, on peut parler d'un dispositif frontière, c'est parce qu'il y a une multifonctionnalité à la fois des savoirs et du dispositif en lui-même. produire des connaissances scientifiques, évaluer des risques, hein, surveiller les bactéries résistantes et guider, orienter la pratique vétérinaire. Et au final, cette incertitude dont je parlais tout à l'heure, je crois qu'il faut plutôt la concevoir comme la forme politisée de ces ignorances qui sont, elles, directement produites par la façon dont fonctionne et est organisé le dispositif de production des connaissances qui ne parvient pas à parfaitement articuler les trois formes d'investissement, donc microbiologique, épidémiologique et clinique, qui président en fait à son fonctionnement. Bien, je vous remercie de votre attention. Excusez-moi pour le temps qui est dépassé.